bien sur Radio Galère, ND Chaîne 88.4, comme tous les lundis de 20h à 21h30. Ce soir, on va faire une spéciale émission avec une rencontre ce soir sans papier ni frontières pour parler du procès qui a lieu demain à Marseille au TJ à 14h du procès de l'incendie qu'il y a eu au centre de rétention du Canet il y a 2 ans.
Monsieur pense que les poulets sont devenus une pure vision de l'esprit.
Je nourris des perspectives, nuances.
Et bien sûr, si on est nombreux et nombreuses demain au rassemblement, ce serait pas mal.
Toutes sortes de choses.
Vous êtes sur ND Chaîne, bonsoir. Et donc ce soir, on vous disait une émission sur ce procès qui va avoir lieu demain à 14h, et on va commencer par vous rappeler un peu pourquoi on est là, et du coup, petit rappel des faits. Ça s'est passé le 9 mars 2011, un incendie qui s'est déclaré à l'intérieur du centre de rétention administrative du Canet à Marseille. Donc, centre de rétention administrative, c'est l'endroit dans lequel on enferme les personnes qui sont sans papier pour une durée de 45 jours maximum aujourd'hui. Durée pendant laquelle ils passent donc devant un juge des libertés et de la détention qui va décider de les expulser ou non vers leur pays d'origine. Donc tout ce temps qu'on passe au centre de rétention en attente d'une éventuelle expulsion, c'est à peu près similaire à un temps passé en prison, puisque les conditions de détention, c'est à l'arrivée enregistrement, fichage ADN, prise d'empreintes digitales. On vous pique vos affaires qu'on met de côté pour vous les rendre éventuellement à la sortie. Et puis, à l'intérieur, c'est fouilles corporelles, surveillance. Et comme dans toutes les prisons, les personnes qui sont détenues sont soumises à l'arbitraire de la détention. Donc avec ce qui va avec, refus de soins, mise sous calmant, placement à l'isolement, humiliation, tabassage, etc. Voilà, donc pour revenir à ce qui s'est passé le 9 mars, il y a donc un feu qui a pris de l'intérieur simultanément dans plusieurs zones du centre de rétention. Il y a eu donc une évacuation, dont on reviendra un peu sur les conditions de cette évacuation plus tard dans l'émission, et le transfert des retenus à un autre centre de rétention, à Nîmes, ou à l'hôpital, parce qu'il y en a donc qui étaient intoxiqués par les fumées. Il y a quelques-uns qui ont profité de cette occasion pour s'évader. Et ce qui s'est passé, c'est que le centre a été pendant plus de 2 mois inutilisable parce que partiellement détruit, endommagé par les fumées, etc. Voilà, donc 2 mois où il n'y a pas eu de centre de rétention en fonction à Marseille. Ça voulait dire pendant ce temps-là moins de rafles et moins d'expulsions du coup dans la région. Donc ça, c'est le côté un peu positif de la chose. Après, il y a eu des conséquences plus fâcheuses, puisqu'il y a 15 personnes qui ont d'abord été placées en garde à vue, accusées, soupçonnées d'avoir été à l'origine de l'incendie. Sur ces 15 personnes, 6 qui ont d'abord été placées en détention provisoire au Beaumet, dont certains ont été relâchés ensuite, puisqu'il y avait donc plus de charges qui pesaient contre eux. Et il y a 2 personnes qui sont restées inculpées, qui ont vécu du coup d'abord la détention. Donc l'un a fait 3 mois et l'autre 5 mois de détention provisoire, et qui ont été ensuite soumis à un contrôle judiciaire. L'obligation de pointer au commissariat d'abord toutes les semaines, puis toutes les 2 semaines. Et ce contrôle judiciaire a duré 2 ans et demi, le temps qu'ils trouvent une date pour les faire passer devant le juge. Et donc la date, ils l'ont trouvée, et c'est demain. Ça se passe à 14h, c'est au TGI à Marseille, donc l'adresse c'est 6 rue Émile Polac. Et il y a un rassemblement qui est organisé devant le tribunal à cette occasion pour soutenir les 2 personnes qui sont inculpées. Voilà, ça c'est pour annoncer un peu le pourquoi on est là.
Alors, arrêté grâce aux rafles, grâce au contrôle au faciès, plus de 40 000 personnes par an se retrouvent enfermées dans les prisons que l'on nomme centres de rétention. Ces personnes, ce sont celles qui parmi nous se retrouvent à bosser pour 3 euros de l'heure. Dans le bâtiment, dans les ménages, la restauration, les travaux agricoles, le textile ou les gardes d'enfants. Celles et ceux qui survivent par d'autres moyens parallèles, tels la vente à la sauvette ou la prostitution. Ils sont celles et ceux qui se retrouvent aux prises avec les marchands de sommeil, avec les huissiers et les flics qui viennent expulser les logements où ils vivent. Ils constituent une main-d'œuvre qu'on peut exploiter, dans des conditions à peine différentes de ce qui se faisait hier et se fait aujourd'hui encore dans les colonies. Alors, colonisés hier, clandestins aujourd'hui et demain. Enfermés, puis expulsés, renvoyés de l'autre côté des frontières, au point de départ d'une traversée semée d'entraves, d'obstacles, de prisons et de morts. Ou alors régularisés, mais toujours exploités, mais toujours aussi racisés, stigmatisés, comme tous ceux et toutes celles à qui l'on colle cette étiquette d'étranger. Ceux et celles qui, parmi nous, même quand ils ont des papiers en règle, se voient encore refuser un accès identique au logement ou à l'embauche, voire à l'éducation, si elles ont l'insolence de porter le voile. La course à l'intégration, tout comme la mise en concurrence des travailleurs légaux ou illégaux, le tri opéré par l'État, entre ceux qui sont dociles et exploitables, et ceux qui ne correspondent pas aux besoins du moment, le maintien des divisions entre différentes catégories d'exploités sont des constantes de ces politiques permettant d'assurer des bénéfices et le maintien des privilèges de la bourgeoisie. Alors, quand des flammes viennent détruire l'un des dispositifs de cette traque aux pauvres, quand le feu s'empare de cet outil de répression où l'on enferme et l'on expulse sur des critères racistes, quand ne serait-ce qu'un instant, l'incendie rend inutilisable la prison qui sert de moyen de pression pour que l'ensemble des sans-papiers soit contraint de survivre, dans la peur, dans l'isolement, et accepte sans broncher les conditions de leur exploitation. Quand le feu vient narguer toute cette machine bien rodée, on ne peut que se réjouir. Il ne peut s'agir d'un acte isolé, car c'est un geste de révolte parmi toutes les insoumissions qui n'auront de cesse de se multiplier. Si donc nous sommes solidaires de l'acte, il s'agit aussi d'affirmer une solidarité avec les deux personnes qui se retrouvent accusées de ce geste de révolte. L'État a trouvé des boucs émissaires. Et, tout en individualisant l'acte qu'on leur reproche, il cherchera sans doute à faire de l'éventuelle condamnation un exemple, une énième menace pour ceux et celles qui osent franchir ou briser les frontières. Que la justice les innocente ou qu'elle les condamne, c'est bien l'existence des centres de rétention et donc de ce procès que nous vous invitons à contester demain dès 14h.
On a toutes sortes de choses.
Des coins qui puent, du venin du pu, des contrats rompus, tout ce qui a corrompu. En guise d'accueil, le mauvais œil, l'avarice et l'orgueil, tout ce qui porte le deuil. T'auras gratteur d'acédique, squatteur sceptique, menteur psychotique, sondage et statistique. À tout âge, pas de rêve, ni même de confort, mais des cris détruits, du bruit et pas mal d'efforts. C'est tout ce que t'auras, des délinquants, des truands, des voyous, des wesh wesh, des yo-yé, des cris de you-you, des narvalos, sous au bout du rouleau, parce que sans boulot, prêt à faire une boulette. C'est tout ce que t'auras, chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce. Te défonce, toi qui es sans défense, c'est tout ce que t'auras, c'est tout ce que t'auras. J'ai la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce. T'offense, te défonce, toi qui es sans défense, c'est tout ce que t'auras. Drogue douce, drogue dure, et puis des ordures, képi, avec une paire de couilles à la ceinture, sans répit. Humiliation, arrestation, détention, centre de rétention, égale expulsion à tous les étages, de la frustration et du chantage, des séquestrations et des prises d'otages, foutage de gueule, belle parole, promesse sans fin, du ras-le-bol et des grèves de la faim, l'arroseur arrosé, refus à l'embauche, motif, trop bronzé, la chance que tu chevauches, la poisse qui te cravache, vache folle et grippe aviaire, c'est tout ce que t'auras pour finir sur une civière, c'est tout ce que t'auras, chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qui es sans défense, c'est tout ce que t'auras, c'est tout ce que t'auras, chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qui es sans défense, c'est tout ce que t'auras. Délocalisation ou bien licenciement, les pieds dans le ciment, guise de remerciement. Hommage, hommage, dommage, collatéraux, les gens sont le carreau, c'est la merde depuis que c'est l'euro, c'est tout ce que t'auras. Des pompiers pyromanes, des mythomanes, des kleptomanes, des nymphomanes, c'est la crise profonde et le malaise. Tous ces politiciens
citoyens qui volent et fuient à l'anglaise. Les financements occultes, les paradis fiscaux, le système judiciaire qui est un fiasco. Racisme, jusque dans les stades de foot, derrière la carte postale, t'auras tout ce qui te dégoûte.
C'est tout ce que t'auras chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qu'est sans défense. C'est tout ce que t'auras, c'est tout ce que t'auras chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qu'est sans défense. C'est tout ce que t'auras, c'est tout ce que t'auras chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qu'est sans défense. C'est tout ce que t'auras, c'est tout ce que t'auras chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qu'est sans défense. C'est tout ce que t'auras, c'est tout ce que t'auras chez la douce France, c'est tout ce que t'auras, pays de mon enfance, c'est tout ce que t'auras chez la douce France, c'est tout ce que t'auras.
Alors, revenir un petit peu sur ce à quoi servent les centres de migration et à quel endroit ils sont un rouage de politique migratoire. Politique migratoire qui sert un système économique, celui dans lequel on vit, un système capitaliste. Ce qui permet à un patron de faire des bénéfices, c'est la marge d'argent récupérée entre le coût de revient de la marchandise produite et le prix de sa vente. C'est ce qu'on appelle la plus-value. Et la façon la plus évidente de la produire, cette plus-value, c'est d'augmenter le prix de vente ou le nombre de ventes, tout en diminuant le coût de la production, c'est-à-dire les dépenses en salaire et le prix de revient des matières premières. De fait, c'est en cherchant toujours à exploiter une main-d'œuvre plus précaire que le patronat peut imaginer faire plus de bénéfices. De la même manière, c'est en cherchant sans cesse de nouveaux marchés pour écouler les marchandises que les profits peuvent augmenter. La délocalisation, la restructuration territoriale sont ainsi des phénomènes logiques dans le processus de production capitaliste. De fait, les migrations de prolétaires le sont également, qu'il s'agisse de migrations internes des campagnes vers la ville ou qu'il s'agisse de migrations externes des pays dits du sud vers les pays du nord, en réalité des migrations qui s'opèrent entre des territoires moins industrialisés vers des territoires dont la production économique nécessite l'emploi plus important d'une main-d'œuvre peu qualifiée. Donc les migrations sont nécessaires au système de production capitaliste qui va toujours être à la recherche d'une main-d'œuvre moins bien payée. Donc quand la phase de développement de l'économie et du capitalisme s'appuyait sur l'exploitation des territoires colonisés, les États y disposaient de viviers de main-d'œuvre corvéables à volonté dans les pays colonisés. Alors il y avait un vivier de main-d'œuvre et en même temps il y avait un accès facile aux matières premières. Mais du coup, la décolonisation et la phase de restructuration du capitalisme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle a entraîné une mondialisation de la production et elle a provoqué des délocalisations et des migrations massives du prolétariat des anciennes colonies vers les pays industrialisés. Et donc, comme il y a eu cette migration massive, on a créé un statut juridique et idéologique du travailleur immigré. Parce que du coup, le système capitaliste, il implique une perpétuelle restructuration de la production. On va jamais reproduire exactement de la même manière. Et donc, pour maintenir un taux de profit, il s'agit de maintenir un faible coût de production. Pour cela, et c'est là que la migration entre en jeu, il y a une instrumentalisation d'une partie des travailleurs, donc qui va constituer ce qu'on appelle une armée de réserve. Une armée de réserve, c'est du coup un groupe de chômeurs plus ou moins longue durée, de migrants, de travailleurs précaires, pauvres ou peu qualifiés. Et ce groupe de personnes, du coup, qui est soumis à une immense précarité, et du coup prêt à accepter n'importe quel job, il constitue un vivier d'emploi de travailleurs non qualifiés et qu'on peut du coup très peu payer en cas de période de prospérité où il faut employer vite et pas longtemps. Mais quand on n'est pas en période de prospérité, comme ça l'est en ce moment, l'existence de cette main-d'œuvre potentielle, donc cette armée de réserve, agit comme une menace permanente pour les salariés plus qualifiés. Si tu n'acceptes pas les conditions de travail telles qu'elles te sont proposées, ne t'inquiète pas, il y a plus pauvre qui sera prêt à accepter les pires conditions de boulot. Donc ça permet de maintenir une pression vers le bas sur l'ensemble du marché du travail. La concurrence des chômeurs exerce une pression continuelle sur les salariés, ce qui permet d'abaisser les salaires au minimum et de déréglementer le travail en précarisant les conditions du salariat. Donc le travailleur clandestin, il a une double fonction, utile au patronat dans la production capitaliste. À la fois, il constitue une main d'œuvre vraiment pas chère et jetable, entre guillemets, et complètement corvéable aux besoins de la production. Et ça sert aussi pour mettre la pression sur l'ensemble des travailleurs. Voilà, en vrai, il n'y a pas de... Malgré plein d'annonces, et on va voir un petit peu plus loin quels sont les mécanismes et les outils des politiques migratoires, il n'y a pas de réelle volonté du tout de diminuer le travail clandestin ou de réellement... réellement empêcher l'émigration. En fait, le but, c'est bien plutôt de gérer l'émigration et de la coordonner en fonction des besoins du marché du travail européen. Voilà, c'était juste pour revenir un petit peu sur comment sont instrumentalisés les migrants en Europe.
On a parlé donc des nécessités pour eux de gérer les migrations. Et il y a un outil qui a pas mal aidé à ça en Europe, c'est la mise en place de l'espace Schengen, qui a modifié donc les contours de la frontière, parce qu'il y avait donc une nécessité de faciliter la circulation des marchandises et des travailleurs, et donc d'ouvrir les frontières dans l'espace européen. Mais cette circulation, elle devait être contrôlée et rentabilisée. Il fallait organiser la main-d'œuvre en fonction des besoins de la production, c'est-à-dire agir sur les flux de travailleurs et opérer un tri à l'intérieur de ces flux. Donc la frontière, elle n'a pas disparu en Europe, bien au contraire, mais il y a eu un mécanisme où elle s'est renforcée aux limites extérieures de l'Europe et diffusée à l'intérieur. Donc cette dissémination dans le territoire, d'abord, c'est tous les relais possibles du contrôle. Parce que donc, quand on est migrant, il y a tout un tas d'endroits où c'est possible de soit subir un contrôle au faciès, soit une rafle qui vise plus largement, soit de subir la délation, etc. Et donc les relais du contrôle, ils se font partout, que ce soit dans les transports, dans la rue, au guichet d'une administration quelconque, agence d'intérim, banque, préfecture, etc. Et donc ce genre de contrôle qui vise les migrants, on peut aussi d'ailleurs le généraliser à l'ensemble de la population dans certains cas, parce qu'on sait un peu que la délation dans les administrations, c'est quand même un truc qui se précise ces derniers temps. Donc il y a cette dissémination dans le territoire avec ces relais-là. Il y a aussi des dispositifs qui sont plus particulièrement des dispositifs de gestion de l'immigration avec la construction de nouveaux centres de rétention sans arrêt. Il y en a 25 aujourd'hui. La complexification des demandes de visa ou d'asile, voilà toutes les procédures qui deviennent de plus en plus complexes. Et la création de fichiers européens. Donc d'une harmonisation des fichiers entre les différents pays de l'Europe pour les demandeurs d'asile, pour les personnes expulsées, etc. Et avec toutes les techniques de pointe qui aident à ça. Donc ça, c'est ce qui s'organise à l'intérieur de l'Europe et on oublie certainement plein de choses, la présence policière et j'en oublie. Mais c'est des dispositifs qui rendent la frontière omniprésente et assez insaisissable parce qu'elle est partout, quoi. Et en parallèle de ça, on le disait, le contrôle des migrations, il se renforce aux portes de l'Europe, donc toutes les frontières extérieures. Donc là, c'est intéressant quand même à noter cette répartition des rôles entre les différents États européens qui correspond à la hiérarchie entre les différents États, avec la France et l'Allemagne au centre qui sont les pays les plus riches d'Europe, et qui délègue le sale boulot du contrôle de la frontière, du contrôle militaire de la frontière, etc., aux pays qui se trouvent en périphérie. Il y a un accord, un règlement qui s'appelle Dublin 2, qui a été adopté en 2003, qui va dans ce sens-là, puisque et c'est un accord qui permet de décider quel État européen est responsable de l'examen d'une demande d'asile, et qui dit plus ou moins tel quel que en fait c'est le premier État dans lequel la personne elle est contrôlée. Donc ça va être forcément un des états frontaliers. Et avec, pareil, une mise en place de fichiers qui permettent de détecter des personnes qui auraient déjà déposé une demande ailleurs et qui, du coup, va les empêcher d'en redéposer une dans un autre pays, etc. Voilà, donc du coup, ça c'est une des choses qui accroît le fait que c'est les États plus extérieurs de l'Europe qui vont avoir ce rôle-là de prise en charge des demandes d'asile, etc. Et donc voilà, un développement du contrôle aux frontières extérieures qui est administratif sur ce plan-là par exemple, et pas seulement puisque il est aussi militaire, et on va le voir, ça passe aussi entre autres par la création de l'agence Frontex.
Alors Frontex fait partie des autres dispositifs pour la gestion des migrants. En fait, il y a une action concertée de différentes instances et de différents dispositifs. Schengen, nous l'avons vu. Eurosur, qui est le système européen de surveillance des frontières et qui assure la coopération entre Frontex et les différents États. Et Frontex, dont nous allons parler en détail, et qui s'occupe de ce qui gère le pourtour de l'Union européenne, et aussi l'OTAN, en particulier depuis le 11 septembre, qui prend prétexte de la lutte contre le terrorisme pour réguler la migration vers l'Union européenne et qui est très actif en Méditerranée. Frontex a été créé en 2004. C'est l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. Et nous allons voir plusieurs aspects de Frontex, la militarisation de l'espace de l'Union européenne et des frontières de l'Union européenne, la hiérarchisation des États, le coût de Frontex et les rebonds, les impacts sur nos vies ordinaires. En termes de militarisation, c'est Jean Ziegler qui a qualifié Frontex d'organisation militaire quasi clandestine. En février 2010, Frontex comptait 26 hélicoptères, 22 avions légers, 113 navires, 476 appareils techniques. Une militarisation croissante des frontières maritimes qui, en fait, bien plus qu'elle ne protège l'Union européenne, fragmente les voies de migration, les allonge et rend les endroits de passage de plus en plus dangereux. Pour être clair, officiellement, il a pu être dénombré 20 000 disparus en mer depuis 1993. Dans les faits, les disparus en Méditerranée se situent entre 18 000 et 72 000, ce qui fait quand même pas mal de monde. Tout à l'heure, nous parlions du tri des travailleurs, du tri des humains. Frontex, c'est aussi le tri des États, entre les États riches et puissants et les États périphériques qui doivent subir des pressions et, comme cela a été dit tout à l'heure, se voient confier les plus vilains boulots. On parle beaucoup plus de des pays du Sud dans ce domaine, de la Grèce, de Malte, qui ont dû participer aux opérations Poséidon, de la Turquie, qui avec la Grèce... les deux pays ont dépensé environ 160 000 euros pour mener à bien cette opération Poséidon, de toutes les opérations de contrôle demandées par l'Union européenne. Mais il y a aussi la Finlande, dont on parle moins. La Finlande a fait moderniser sa flotte pour justement lutter contre l'immigration clandestine. Il s'agit d'équiper les navires de caméras thermiques, d'appareils de vision nocturne et de moult appareillages. L'autre hiérarchisation, l'autre sale boulot, a été déléguée aux États maghrébins qui se sont engagés à reprendre chez eux leurs propres ressortissants, mais également les migrants subsahariens et qui exercent parfois une répression très violente sur ces personnes. Donc, les États du nord de l'Afrique sont maintenant un portail d'immigration et jouent un sale rôle pour les États les plus riches. Cela étant, même pour les États les plus riches, Frontex a un coût. Au cours de la période 2008-2009, 18 397 314 euros ont été engagés par Frontex pour des actions en Italie, en Grèce, à Malte, en Espagne. Des sommes extrêmement importantes. Les 23 États concernés pour Frontex, pour la mise en place du système de contrôle aux frontières, ont en tout dépensé ces dernières années 543 697 746,36, je ne sais pas où ils ont trouvé les 36 centimes, euros. Alors, il faut mettre ça en regard des réalités contre lesquelles Frontex sont censés lutter. Dans le monde, il y a 20 millions de personnes déplacées ou réfugiées. L'Europe en accueille 5%. Donc c'est quand même beaucoup de dépenses pour pas grand-chose. La théorie de l'invasion, c'est un peu lamentable. Le budget annuel de Frontex a été multiplié par 20 en 5 ans. On va comparer ça. Bon. Sans parler, il y a quelque chose dont il faut parler aussi. Ce sont toutes les nouvelles technologies développées par les marchands d'armes. Tout à l'heure, nous parlions des caméras de vidéosurveillance thermique, des détecteurs de chaleur, des détecteurs de mouvement, des systèmes de drones. Le budget global est estimé à 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, c'est grosso modo ce que réclamaient les associations caritatives pour assurer l'aide alimentaire aux plus démunis. Voilà pour le coup. Frontex, du point de vue des valeurs, cela veut dire des collaborations peu regardantes avec des pays du nord de l'Afrique. On a demandé à la Libye et à une certaine époque, on a demandé à la Tunisie d'être ce portail de l'immigration. Et ça n'a pas gêné l'Union européenne de collaborer avec des pays où la liberté et les droits de l'homme n'étaient pas exemplaires. Frontex, du point de vue des valeurs, cela veut dire aussi des alliances douteuses, car Frontex est un service de renseignement, c'est un relais policier, militaire, diplomatique. Frontex a passé des accords techniques de coopération avec des pays comme la Biélorussie. Alors la Biélorussie, 159e sur 179 au classement de la liberté de la presse fait par Reporters sans frontières. Des accords techniques de Frontex avec la Russie, 148e dans le classement de la liberté de la presse. Avec l'Ukraine, 126e. Avec la Turquie, 154e. Bientôt, des accords avec l'Azerbaïdjan, 156e sur 179. Frontex, c'est aussi des procédés contestables vis-à-vis des migrants. Claire Rodier, dans son livre « Xénophobie Business », fait l'analyse du marché de l'externalisation et du contrôle de l'immigration. Et elle explique comment les agents de sécurité reçoivent une formation de 5 jours sur les techniques de contrôle et de contention, ce qui explique ce qui a été mentionné tout à l'heure, les recours excessifs à la force, les tabassages. Frontex, c'est aussi valable pour nous. Si vous ne pouvez plus rire sur vos photos, c'est pour permettre à des logiciels de reconnaissance faciale de pouvoir vous identifier. Tout cela, ça fait partie des outils développés par Frontex. Donc Frontex, c'est pour eux, c'est pour nous, c'est pour vous.
Blanc pour mes peines, de la honte sur mes gènes, Ils nous ont exploités sans gêne. Toutes nos ressources taries à échelle surhumaine. Je suis la peur au confinement de leurs nerfs. Et me larve avec torpeur aux quatre coins de leur enfer. Je suis tout ce qu'ils haïssent. Ils en ont décidé ainsi. Le jour qui m'a amené ici a amorcé mon sursis. Nous n'ont jamais été inscrits en lettres capitales. Sans drapeau, sans couleur, sans passe gouvernementale. Pour des nations bâties à l'usure de nos sandales. Et qui se garderont bien de soulever tout scandale. Pour nous l'espoir lentement se tarie par escale. Entre charter, expulsion, l'univers carcéral. Et à jamais la bête noire de ces chacals. Et mon ambition première, je considère que c'est normal. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Des drones, des gravières, une dette en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Par-dessus peut-être autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, une dette en surenchère. Claquer la porte, il y a de ça fort longtemps, ne crois plus à la paix, mais un violent réajustement et je brûle, me consume en quatre temps, une ceinture à la taille, prête à faire feu sur vos gens, pour des générations acquises par nettoyage mental, à qui je souhaite un examen de conscience radicale, si ce sol je foule encore, c'est pour que mes failles restent imprimées après ma mort, tu es né poussière, tu retourneras poussière, les vautours chaque jour dévoreront tes viscères, tu verras que rien ne sert d'espérer en vain, de la résignation pour toi est le plus court des chemins. Sur la brèche insolente et la branche qu'ils ont signée, se tient le rêve jamais brisé d'un à un, les voir tomber. Des racines asséchées de nos précieux oliviers, au pied des cubes de béton et des jardins aseptisés. On prend part à la réécriture du scénar quand les lumières s'éteignent. Quant à nous, s'offre le soir, les murs se taisent, nos morts sur scène. Mais réel est le cauchemar. Il ne s'agit que de temps pour que tous comprennent l'histoire du passage des frontières, du néant des carrières. Des drones, des gravières, des têtes en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Par-dessus peut-être autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, des têtes en surenchère. Pour la guerre à ciel ouvert. Nadine, Bassam, Fadi, Sami, Amtar, Soha, Malika, tous les frères, les sœurs, Arjibi. DJ Metal Skills.
Eh ouais, bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Galère, ND Chaîne 88.4 et on enchaîne avec la suite du programme spécial émission Sans Papiers ni Frontières.
Ouais, alors du coup, on va continuer en repartant un peu en arrière, mais pour parler de l'apparition en fait dans les années 80 de la figure du travailleur clandestin. Et du coup, pour introduire ça, je voulais parler de ce qui s'est passé en fait avant et pendant la guerre d'Algérie, donc bien avant les années 80. Donc une période où dans les colonies comme en métropole, bah, on utilisait pour les travaux les plus pénibles et éventuellement pour servir de chair à canon à l'occasion des guerres, et ben comme d'hab, les plus précaires, donc à cette époque les travailleurs colonisés. Et déjà ces travailleurs étaient assez régulièrement enfermés dans des camps qui étaient soit des camps de travail ou encore des centres de détention administratifs aussi, et qui permettaient la surveillance politique des colonisés et leur tri. Donc en effet, ces travailleurs, de par leur position d'opprimés en tant que colonisés, étaient à la fois les plus exploitables, parce qu'ils avaient peu de possibilités de se révolter, mais aussi, paradoxalement, les plus susceptibles de se révolter. Donc on avait créé un ensemble répressif depuis ces camps d'enfermement jusqu'à des forces de police spéciales qui permettaient donc l'identification et la mise à l'écart notamment des indépendantistes et l'identification aussi et la mise au travail des plus dociles. Donc pour juste citer quelques exemples de ces forces de police, à savoir que quand même il y a eu pendant longtemps des polices spéciales, donc des polices aux colonies dans les colonies, hein. Mais en métropole, à Paris particulièrement, il y avait des brigades de surveillance des Nord-Africains, donc ça cachait pas tellement son nom, qui sont passées après aux brigades agression-violence, brigades de surveillance de nuit. Mais bon, dans le travail était particulièrement de surveiller ce qu'on appelait à l'époque les indigènes colonisés. Donc et elles sont devenues maintenant les BAC qui doivent surveiller les enfants des indigènes colonisés. Donc ça, c'était avant, pendant la guerre d'Algérie. Et donc dans l'année 60,
avec en 64 la fin de la guerre d'Algérie, 62 pardon. Bah, à cette époque, donc la France est en chantier. Hein, on sait, par exemple, dans la région, on construisait le port industriel de Fos-Marseille, et du coup, on avait besoin de beaucoup de main d'œuvre. Et comme on n'avait plus de colonies, bah, on a fait venir des travailleurs des anciennes colonies, donc qui travaillaient dans des conditions misérables, avec beaucoup de morts, beaucoup de blessés sur les chantiers, et qui avaient aussi des conditions de vie, de logement assez misérables, vie en cabane, en caravane, etc. Mais ils étaient donc des travailleurs étrangers, mais légaux sur le territoire. Ils avaient des titres de séjour et même l'espoir d'obtenir un titre de séjour de 10 ans qui leur permettrait moins de précarité au bout d'un moment. Mais voilà, en 1974 arrive la crise et on va assister à la réapparition d'un discours anti-émigré. Donc, avec notamment l'apparition du FN sur l'échiquier politique. Alors, bon, bien sûr, déjà, enfin, il y avait depuis les années 80 et même avant, il y avait déjà l'idée d'une menace d'invasion des pays riches par les populations du Sud, mais c'était une idée qui était essentiellement répandue dans les milieux d'extrême droite. Et à partir des années 80, cette idée, elle va être reprise et assumée par les partis de gouvernement, donc de gauche sous Mitterrand, de droite, qui ont intégré dans ces années 80 à leur discours toutes les représentations qui font du migrant un criminel, du migrant un terroriste, du migrant un sexiste, etc. etc. Et qui font, en tout cas, toutes ces représentations qui font de l'étranger un problème. Donc on va voir en 89, par exemple, Mitterrand qui va parler de seuil de tolérance dépassé à propos de l'immigration. Valéry Giscard d'Estaing, en 91, qui va dire qu'on n'est plus dans une problématique d'immigration, mais d'invasion. Et évidemment, Chirac, on se souvient, qui va parler du bruit et de l'odeur des immigrés, de la préférence nationale et d'une overdose d'immigrés. Attention. Donc, dans la pratique, ça va se traduire par l'illégalisation des ouvriers étrangers qui sont présents sur le sol français. Alors notamment dans un premier temps en les déplaçant vers des emplois plus précaires, notamment marqués par la sous-traitance. Donc ces travailleurs, ils vont toujours être employés dans les mêmes secteurs qu'avant, la construction, le bâtiment, le textile, mais sous des formes démultipliées de contrats externalisés ou précarisés, donc intérim, CDD, mission, travail indépendant, ce qui va rendre pour eux beaucoup plus difficile l'obtention, voire le renouvellement, de leur permis de séjour. Ça va s'accentuer dans les années 90, au milieu des années 90. On se souvient que Pasqua avait réformé les lois régissant le séjour des étrangers et notamment avait supprimé cette possibilité d'obtenir, au bout d'un certain nombre d'années de carte de séjour d'un an, cette carte de séjour de 10 ans. Et du coup, beaucoup, notamment des étudiants, vont plus avoir cette possibilité d'obtenir cette carte de séjour. Alors qu'avant, la plupart l'obtenaient au terme de leurs études, notamment. Et on se souvient que ça avait créé quand même pas mal de mouvements, qu'il y avait eu des gros mouvements de sans-papiers à cette époque-là. Voilà. Donc, parallèlement à cette illégalisation des immigrés déjà présents sur le sol, on va aussi accentuer le contrôle aux frontières, on vous en a déjà parlé. Donc voilà, tout ça pour dire que avant les années 80, donc il y avait ce travailleur étranger, et qu'on a illégalisé au fur et à mesure des lois, mais que le travailleur étranger, en fait, il avait exactement la même fonction pour le capital que le travailleur clandestin aujourd'hui. Donc à savoir, ils n'avaient quasi aucun droit, ils étaient sous-payés, ils pouvaient pas vraiment revendiquer pour leurs droits. Les travailleurs illégalisés, donc clandestins, occupent, malgré le fait qu'ils ne représentent qu'une fraction minime de la population active des pays occidentaux, une place stratégique dans leur économie. Donc d'une part parce qu'ils assurent des tâches dans de nombreux secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des services que personne ne veut faire, et d'autre part parce qu'ils font fonction de cobayes pour une dérégulation de l'ensemble du marché du travail, des marchés du travail à l'échelle internationale et des organisations économiques et sociales. En effet, ce travailleur illégal, illégalisé, est soumis à une précarité totale en termes de travail, bien sûr, mais aussi de logement, de santé, familiale, etc. Et il est ainsi rendu complètement adaptable, flexible, moins cher, et il contribue du coup à faire peser une pression sur les travailleurs qui ont des papiers, à faire baisser les salaires, à rendre plus dures les conditions de travail, etc.
لي جان لي تحقروها وعطاوهم بظهر رامي يشوفوا فات البلاد في شغل حبس كي شغل الكبر يقول لك ما كانش سهر كاين الهم كاين الشر الاسبوار والهيها بعيد ورا البحر ما لا يبعد لامباساده دوسي ورا دوسي كان لي يشري كان لي يدرح كان لي بالمعرفه يفوسيا لي ولا يفرسي يضرب قدها ضربه سردو كي يشوف صحابه في الصيف رجعوا من الغربه كانوا لهنا الضحكه صبحوا ليها لي ولا تعدل ولو رب خرجت عليها بالخدمه بالدار وبالموبيل.
Et donc, on va continuer cette émission sur les politiques migratoires avec un extrait d'une discussion qui a eu le 8 novembre à l'Équitable Café. Voilà, c'était Nicolas Fischer qui parlait de l'ambiguïté du recours au droit et qui faisait un petit historique de la création des centres de rétention et de leur institutionnalisation progressive. On l'écoute.
L'idée, c'était de parler un petit peu aussi de l'histoire des centres de rétention, d'essayer de voir, alors c'est assez compliqué parce que la généalogie de la rétention est multiple, mais de voir un peu d'où ça vient et de voir du coup aussi comment ça peut éclairer ce que c'est que cette institution extrêmement bizarre, ça a été dit un peu tout à l'heure, qui juridiquement, en tout cas, ne sont pas des prisons, qui ne relèvent pas d'administration pénitentiaire, qui n'ont rien à voir, alors qui sont clairement punitives dans les faits, mais qui, à la base, ne sont pas connectés au pouvoir judiciaire, ne sont pas insérés dans une logique pénale, mais qui relèvent beaucoup plus de ce que, autrefois, on appelait l'internement administratif, qui a une histoire, pour le coup, assez longue dans le cas de la France. Alors là, je renvoie notamment aux travaux de Marc Bernardo, qui a vraiment essayé de faire une histoire la plus fine et la plus précise possible de cette institution, qui est une institution un peu savonnette, qui est très difficile à saisir, qui disparaît à certains moments, qui ressurgit, etc. Ce qui est connu en général de l'internement, c'est notamment les camps d'internement d'étrangers qui ont pu exister sur le territoire. Alors, d'abord, dans des périodes de crise du type Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, où on interne les ressortissants étrangers, les pays ennemis, mais aussi dans des moments, en tout cas pas des crises ouvertes, il y a des campements de drôle de guerre, après la déclaration de guerre en 1939, il y a des camps de réfugiés qui sont aussi en même temps parfois des camps répressifs pour les républicains espagnols qui arrivent sur le territoire français en 1936 déjà, et puis ensuite au printemps 1939. Mais ce qu'il faut dire aussi, et ça va se reconnecter à cette histoire immédiate des centres de rétention, c'est que, au-delà de ces lieux d'internement officiels qui ont été ouverts en vertu d'un règlement ou d'une loi à certaines époques, il y a une pratique policière très ancienne, alors qui se connecte à la colonisation, qui se connecte plus généralement aux contrôles policiers de tout un tas de populations, qui est, j'allais dire, enfin je m'avance un peu en disant ça, mais qui est peut-être presque aussi ancienne que la police elle-même, que l'institution policière elle-même. C'est-à-dire que, je pense à un travail qui a pu être fait sur l'histoire du contrôle policier décolonisé par un de mes collègues, Emmanuel Blanchard, qui est aussi logistique d'ailleurs, qui dit que lui, enfin au fond, pour lui, dans l'histoire de la police, il y a deux répertoires d'action, il y a deux registres d'action qui sont presque constants dès le 19e siècle. Le premier, c'est la rafle, et le deuxième, c'est l'internement administratif. Alors, internement administratif, là, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un cadre juridique qui autorise, qui oblige les policiers à mener les gens vers des camps d'internement officiels, etc., etc. Ça veut dire que c'est avant tout une pratique qui coïncide avec la constitution de l'État-nation et d'un espace public dans l'État-nation, qui est qu'il y a des populations qui ne sont pas sanctionnables pénalement, qui ne sont pas en infraction, qui sont considérées comme étant source d'un désordre social, moral, par leur seule présence sur la voie publique, et que du coup, on va saisir, on va soustraire l'espace public, on va emmener au poste pendant quelques heures, parfois simplement, qu'on va relâcher un kilomètre plus loin en leur expliquant bien qu'elles ne sont pas censées réapparaître dans tel quartier, à tel endroit, etc. etc. Et ça, c'est une pratique policière, de fait, qui n'a pas besoin de cadre juridique et qui est quasi constante sur certaines populations. Alors, par excellence, effectivement, les colonisés, par excellence aussi les étrangers, il y a clairement des liens et des connexions entre les deux. Ça va aussi fonctionner sur les vagabonds, ça va aussi fonctionner sur les prostituées. Bref, sur toutes ces populations qui sont un peu borderline, qui en général ne sont pas incriminées ni incriminables pénalement, mais qui par contre vont être comme ça dans une logique de contrôle des déplacements, de contrôle de la présence. Alors, je dis ça aussi parce que ça se relie à l'histoire directe de la rétention, et en l'occurrence ça se relie aussi à quelque chose qui s'est produit à Marseille au milieu des années 70, qui est l'affaire d'Arinck, le scandale d'Arinck. Alors c'est quelque chose que sans doute pas mal de gens ici connaissent ou dont pas mal de gens ont peut-être entendu parler. L'histoire des centres de rétention, c'est difficile de dire exactement quand elle commence, parce que justement il y a cette pratique policière qui existe. Alors elle va s'incarner à Marseille dans un lieu très précis qui est donc le hangar d'Arinck, qui est situé sur un des môles du port de Marseille, qui est un lieu qui est utilisé à partir de 1964 par la police marseillaise pour enfermer des étrangers qui sont soit sous le coup d'un arrêté d'expulsion à l'époque, soit qui pourraient être sous le coup d'un arrêté d'expulsion, qui sont en tout cas repérés par la police ou par la préfecture, qui vont se retrouver dans ce lieu qui est un hangar qui a été construit initialement pendant la Première Guerre mondiale mais pour vraiment stocker des marchandises et qui est utilisé par la police donc pour l'enfermement sans aucun cadre juridique. Donc au départ, on est vraiment sur une logique effectivement complètement précaire, totalement illégale hein, au sens strict du terme. Alors, je passe rapidement sur les détails, mais ce qui est intéressant, c'est à la fois le fait que ça va être signalé à un moment donné, et la manière aussi, je pense, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, dont les luttes associatives contre ce lieu, contre cette pratique vont s'organiser. C'est-à-dire que donc le centre est ouvert, pas officiellement, mais en tout cas il est utilisé à partir de 1964, et il est repéré à partir de 1974-75 par des journalistes à Marseille, par un journaliste de l'Humanité, notamment Alexandre Zanini, qui a lui-même été alerté par un avocat qui était connecté au mouvement des travailleurs arabes, dont un membre a été conduit à Arinck, donc historiquement ça commence comme ça. Il y a un collectif d'associations qui se crée à Marseille pour combattre, enfin déjà pour rendre public cette pratique, pour la mettre en visibilité, et ensuite pour la combattre, et très rapidement, la lutte va s'organiser autour du droit. Alors c'est lié aussi à l'état du champ associatif à l'époque. Le registre du droit, l'arme du droit, est énormément investi par les organisations militantes de l'époque, notamment autour de la question des étrangers. C'est l'époque où le Justi se constitue avec l'idée de lutter pour les droits des étrangers, à une époque où les étrangers, où il n'y a pratiquement pas de droits des étrangers. Les 2-3 règles qui régissent le séjour des étrangers en France sont des circulaires, donc des normes extrêmement molles. Les 3/4 du temps, elles ne sont même pas publiées, donc les étrangers ne connaissent pas le droit qui les régit. Donc il y a vraiment un travail juridique là qui apparaît comme nécessaire et qui est investi par pas mal d'associations. Au niveau du collectif d'Arinck, on trouve aussi le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, la CIMAD également, la Ligue des droits de l'homme, donc un certain nombre de groupes qui sont vraiment organisés autour de l'idée qu'on peut utiliser la pratique du droit pour attaquer ces lieux. Alors là aussi je passe très vite, mais je pense que ça montre assez bien en l'occurrence ce qu'on pourrait qualifier d'ambivalence du droit, c'est-à-dire qu'au final il y aura un certain nombre de victoires devant les tribunaux, notamment quand le ministre de l'Intérieur de l'époque, Michel Poniatowski, va essayer de régulariser la pratique de la rétention par voie circulaire. Le Justi va attaquer la circulaire devant le Conseil d'État annule les circulaires. Sauf que le Conseil d'État, dans le même arrêt, va dire « La rétention, c'est parfaitement légal, simplement ça doit passer par la loi. » Et le résultat paradoxal de cette lutte, ça va être finalement l'officialisation de la rétention administrative à travers une série de lois en 80-81, la dernière étant votée en octobre 81 par la nouvelle majorité socialiste qui vient d'être élue à l'époque, après l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Et du coup, les centres de rétention vont rentrer dans une logique progressive d'institutionnalisation. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'une officialisation à l'identique de la pratique hein, telle qu'elle existait à Arinck, mais en même temps, on va assister à une transformation du dispositif. Donc, en un sens à une sophistication du dispositif, et en même temps aussi à l'ajout à la rétention de toute une série de contrôles, de formes de protection. Il y a un contrôle juridictionnel qui est institué en 1981, c'est-à-dire que les étrangers placés en rétention passent devant un juge, qui est aujourd'hui juge des libertés et de la détention, qui peut les remettre en liberté, les assigner à résidence ou les maintenir dans le centre de rétention. Et puis à partir de 1984, il y aura une présence associative au sein même des centres de rétention. Et en l'occurrence, à l'époque, c'est une seule association, la CIMAD, qui va passer une convention à l'époque avec le ministère des Affaires sociales pour être présente dans les centres de rétention. Et pour effectuer un travail qui, à l'époque, est censé être un travail social, qui en fait très très rapidement est un travail de conseil juridique, d'assistant juridique, qui va devenir officiellement une assistante juridique en 2001, et qui va aussi devenir assez rapidement un travail de, disons, de vigilance, d'observation des conditions de rétention. Avec là aussi, à partir du début des années 2000, la publication d'un rapport tous les ans sur les conditions de rétention administrative. Donc, quelque chose d'extrêmement compliqué et assez paradoxal. Alors, en général, je décris ça comme une espèce de triple mouvement, à la fois d'officialisation des centres de rétention, c'est-à-dire que plus ça va, plus on va codifier la rétention administrative, de plus en plus précisément. Il y a ensuite un mouvement de pérennisation des centres de rétention. Dans les années 80, on a 13 centres de rétention, qui sont en général complètement bricolés, on les implante dans des ALGECO, on récupère des locaux de police, des usines désaffectées, etc., etc. Le centre d'Arin va rester en vigueur jusqu'en 2006 à Marseille, et on continue à utiliser ce centre tout simplement parce qu'on n'a pas d'autre lieu, que ça coûte beaucoup moins cher de construire quelque chose, on continue à fonctionner avec ça, et on va passer à un ensemble aujourd'hui de 25 centres de rétention, qui totalise maintenant environ un petit peu plus de 1720 places de rétention administrative, et qui sont là pour le coup des locaux qui sont construits en dur, qui sont des locaux pérennes, qui sont construits de manière vraiment très spécialisée pour être des centres de rétention. Il y a un marché qui est apparu autour de ça, il y a des cabinets d'architectes qui dessinent alors des centres de rétention, des zones d'attente, hein, il y a des savoir-faire là qui se constituent. Et puis progressivement, il y a aussi une logique de spécialisation de ces lieux. C'est-à-dire que progressivement, ces espaces d'urgence un peu mal fichus des années 80 vont devenir des lieux où il y a de véritables professionnels qui interviennent. Alors au départ, il y a l'administration pénitentiaire qui intervient là-dedans, ce qui est assez illogique parce que ce ne sont pas des locaux pénitentiaires. Ils vont être remplacés dans les années 2000 par des prestataires privés, donc qui gèrent tout ce qui est literie, repas, alimentation, etc., etc. Il y a des travailleurs sociaux de l'Office français de l'immigration et d'intégration qui interviennent pour faire le travail social. Et il y a toujours également une présence associative. Alors, qui est plus complexe encore parce que c'est une présence critique et officiellement critique, si je puis dire, donc qui est autorisée à faire un travail, alors qui peut être investi de manière militante ou pas. Moi, ce que j'avais observé à l'époque pour ma thèse, c'était le travail des intervenants CIMAD. Pour le coup, avait vraiment une logique d'engagement militant dans l'utilisation du droit. Donc il y a vraiment l'idée d'entrer en centre de rétention, d'abord pour témoigner de ce qui se passe à l'intérieur vers l'extérieur, et puis aussi pour faire un travail juridique d'assistance, et donc attaquer les mesures de renvoi forcé, les mesures de placement en rétention devant les tribunaux, dans la mesure du possible, mais je vais y revenir parce que c'est évidemment un point important, pour vraiment faire un travail considéré à leurs yeux comme vraiment un travail politique, un travail militant, d'opposition à l'administration. Alors, avec quelque chose de très ambivalent, parce que à la fois c'est quelque chose qui a une vraie force à un moment donné, c'est-à-dire que bon, déjà parce que ça permet, ça a permis d'obtenir des victoires individuellement sur des étrangers qu'on va faire sortir, des étrangers qu'on va faire régulariser, etc., etc. Aussi parce que ça a débouché sur la constitution autour des centres de rétention de tout un champ critique. Où on va retrouver à la fois d'autres militants associatifs, des journalistes, des praticiens du droit, des avocats, etc., etc. Et ça entretient en quelque sorte une attention publique par rapport à la rétention administrative. Et aussi un travail coordonné en droit, etc., etc. Avec évidemment la limite, et les limites dont d'ailleurs étaient conscients les intervenants CIMAD que j'avais rencontrés pour ma thèse, qui est que, évidemment, à partir du moment où on rentre dans l'institution, on accepte de contester dans les termes du droit. Et donc évidemment dans les limites de ce que le droit permet de faire ou de pas faire, avec du coup des situations où bah, effectivement on va pouvoir aider quelques étrangers parmi ceux qu'on va rencontrer en centre de rétention, parce que ceux-là ils rentrent dans les catégories du droit, il faut justement s'inspirer des catégories juridiques, Il faut éventuellement même anticiper la réaction des administrations devant telle ou telle action qu'on va faire en justice, devant telle ou telle sollicitation. Je ne sais pas, j'ai encore quelques minutes pour dire encore deux, trois choses. Donc voilà, pour lancer le débat et sans en dire plus, voilà, sur à la fois la force du droit, parce que ben, comme l'ont dit pas mal de sociologues sur ces questions-là, ça permet d'attaquer l'État dans ses termes, en parlant sa langue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous faites sanctionner une administration par un tribunal, l'administration en question ne peut pas faire autrement que d'obtempérer. Et en même temps, évidemment, la question, c'est qu'est-ce que le droit permet encore de faire, et qu'est-ce que le droit ne permet pas de faire, et qu'est-ce qu'il faut disqualifier comme mode de contestation de la rétention qui ne serait pas juridique. Quel type de but, etc. Alors, peut-être juste aussi, enfin, là, pour le coup, je vais aller vraiment rapidement pour aussi lancer des éléments de débat sur la situation des centres de rétention aujourd'hui. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on était passé de 13 centres dans les années 80 à 25 centres dans les années 2000, 1720 places. Il y a eu un gros programme de construction immobilière à partir de 2005, notamment, qui a conduit à la multiplication du nombre de centres, dont la construction du centre du Canet à Marseille, d'ailleurs, faisait partie. Allongement aussi de la durée de rétention. On est passé de 6 jours dans les années 80 à 12 jours après la loi Pasqua de 93, puis 32 jours après la loi Sarkozy de 2006. On est maintenant à 45 jours. Et vous savez sans doute qu'il y a une directive, la directive Retour, qui a été adoptée en 2008 au niveau européen, qui permet de passer à plusieurs mois de rétention, hein, qui met un maximum à 3 mois, ce qui a obligé certains États européens à réduire la durée de rétention dans leur situation, mais ce qui permettrait potentiellement en France d'allonger démesurément la durée de rétention. Des lieux qui sont aussi des lieux qui sont rationalisés, qui sont vraiment organisés sur des principes de management. Alors là aussi, c'est un des effets de l'arrivée de Nicolas Sarkozy, d'abord en tant que ministre de l'Intérieur, et ensuite en tant que président de la République. Ce sont d'abord les fameux objectifs chiffrés, dont on a beaucoup parlé, à la fois pour les policiers et pour les préfets. Et vraiment une organisation managériale du travail en préfecture, avec l'idée qu'il faut des permanences en préfecture, il faut qu'il y ait des gens la nuit, s'il y a des sans-papiers arrêtés la nuit, il faut qu'il y ait des gens le week-end, il faut qu'il y ait des valises ou des fiches types pour préparer les arrêtés de reconduite à la frontière. Il y a des comités de pilotage au niveau régional pour vérifier qu'on a bien rempli les objectifs statistiques de l'année précédente, etc., etc. Donc quelque chose de très rationalisé. Et dans cette rationalisation, il y a eu aussi une modification de la présence associative, avec la transformation à partir de 2008 de la présence associative de la défense des droits des étrangers en rétention en un marché. Il y avait eu une campagne à l'époque pour de la Simone, hein, sur le thème « Les droits de l'homme ne sont pas une marchandise ». Effectivement, c'est vraiment cette logique-là, c'est-à-dire que c'est un régime de marché public aujourd'hui. Donc il y a des appels d'offres annuels, les associations sont mises en concurrence. Et à partir de là, c'est un mieux-disant, comme toujours, sur les marchés publics, sauf que là, le mieux-disant, il tient à la fois au fait que les associations sont pas trop revendicatives si possible, que, idéalement, si elles pouvaient s'en tenir à un travail plus humanitaire que juridique, donc un petit peu moins dans un rapport de force avec l'administration, ce serait plutôt mieux. Ça, en l'occurrence, ça a été retoqué par le Conseil d'État à la suite d'une action de la CIMADE qui a demandé que vraiment la mission associative soit une mission juridique. Donc voilà, il y a eu tout un rapport de force qui a duré assez longtemps et qui fait qu'aujourd'hui, il y a 5 associations en tout présentes en rétention. Donc toujours la CIMADE pour une partie des centres, également la SFAM, le Français d'Asile, Forum Réfugié, pardon, non, excusez-moi, c'est... Et puis également l'Ordre de Malte. Donc voilà. Division en 5 associations qui, en l'occurrence, se sont coordonnées, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours un rapport annuel qui sort sur l'état des centres de rétention. Il y a un travail collectif qui s'est organisé. Dernière chose, alors, là aussi, pour revenir sur des thèmes qui ont été évoqués tout à l'heure, sur la question des effets de la rétention administrative sur la condition des étrangers qui passent par ces lieux-là. Alors, sachant qu'évidemment, il faut toujours essayer de penser, et c'est ça qui est jamais très facile, faut penser la rétention comme étant connectée à tout un tas d'autres dispositifs, en amont l'arrestation, la garde à vue, d'autres lieux d'enfermement, les zones d'attente pour les étrangers qui sont bloqués à l'entrée sur le territoire. Donc voilà, il y a tout un réseau, bien entendu les prisons, parce que voilà, il y a pas mal d'étrangers qui vont faire de la prison, vont sortir, vont passer directement en centre de rétention. En centre de rétention, bah, éventuellement, il va y avoir un mouvement du type de celui dont on parle aujourd'hui, qui vont repasser par la case prison. À l'issue de la peine de prison, ils vont être replacés en rétention. À un moment donné, ils vont craquer, ils vont se commutiler, ils vont passer par l'hôpital. Éventuellement, ils vont craquer encore plus gravement, ils vont passer par l'hôpital psychiatrique. Ils vont repasser éventuellement par la rétention après, etc., etc. Et ça, ce sont des situations de gens qui tournent littéralement d'une institution fermée à l'autre. On ne voit pas si rarement dans les centres. Par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, si on prend un petit peu les chiffres de ce que produisent, de ce que réalisent effectivement ces centres de rétention, à chacun de ces stades, on a finalement une redistribution de la population des étrangers en situation irrégulière qui s'effectue entre ceux qui vont déjà, ceux qui vont jamais être détectés, ceux qui seront détectés, qui vont se retrouver avec une mesure de renvoi forcé, hein, ce qu'on appelle les mesures d'éloignement par euphémisme administratif, qui vont être arrêtés mais relâchés, qui vont être arrêtés, placés en garde à vue mais éventuellement relâchés à l'issue de la garde à vue, qui vont être ceux qui vont être au contraire placés en rétention. Alors, de ceux qui vont être placés en rétention, on estime qu'il y a à peu près, les derniers chiffres pour 2011, c'est autour de 40%, un petit peu plus de 40% des étrangers qui passent par la rétention, qui sont effectivement renvoyés. Si on regarde du côté du nombre de mesures d'éloignement qui sont prononcées, et qu'on compare, on regarde le pourcentage de mesures qui sont effectivement réalisées, c'est plus faible, hein, c'est autour de 30%. Si je prends les chiffres ici les plus récents, en 2010 c'était 33,2%, en 2011, qui est le dernier chiffre, sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, les derniers chiffres qu'on a c'est 34,9%. Donc au fond, on a un système qui, si on prend vraiment les standards et les objectifs officiels du ministère de l'Intérieur, est un système extrêmement peu efficace. Ça a d'ailleurs été épinglé en termes bêtement comptables par la Cour des comptes, c'était en 2007. La Cour des comptes a sorti un rapport en disant mais ça coûte extrêmement cher en termes de nullité, etc. Et ça ne sert pas à grand chose en termes de résultats. Et évidemment, au-delà de ça, quand on regarde ces situations-là, quand on regarde aussi ce qui se passe ailleurs en Europe, ou par exemple dans le cas des Pays-Bas, il y a une étude à peu près similaire qui a été faite sur des chiffres qui sont à peu près du même genre, avec un constat identique à la clé. Ce qu'on voit, c'est que finalement, ce sont des lieux qui servent relativement peu à effectivement renvoyer les gens, et qui par contre ont des effets à la fois de redistribution, de tri littéralement dans cette population, et aussi des effets très forts en termes de précarisation. C'est-à-dire qu'effectivement, passer par un centre de rétention, bah, c'est très souvent perdre son emploi, en tout cas avoir des difficultés à retrouver après. C'est des liens familiaux aussi qui vont se distendre, voire disparaître. C'est des liens d'interconnaissance qui permettent d'avoir accès du coup à un logement, d'avoir accès à différentes possibilités qui vont aussi se distendre. Donc effectivement, il y a une logique de reproduction et de redistribution de ce qui peut effectivement se décrire comme une armée de réserve, en tout cas une population d'étrangers qui vont vraisemblablement jamais être envoyés pour une bonne partie d'entre eux, qui vont jamais non plus être régularisés pour la plupart, et qui vont rester comme ça sur le territoire et puis passer régulièrement par l'expérience de l'arrestation, de l'enfermement, etc., etc. Dans les années 70, à propos des prisons, Michel Foucault parlait de gestion différentielle des illégalismes. C'est-à-dire qu'il disait au fond, ça fait 150 ans qu'on dit que la prison ne sert à rien en termes de réhabilitation. Les gens qui passent en prison ne sont jamais réinsérés, ne sont jamais réhabilités. Par contre, ça permet de gérer un espace social qui est l'espace délinquant, qui est le monde de la délinquance. Effectivement, il y a les gens qui sont arrêtés régulièrement, qui passent en prison, qui sont remis en liberté. Pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui, eux, étaient en liberté, qui ont réorganisé un peu la délinquance, qui vont repasser en prison, etc., etc. Et finalement, on garde sous contrôle une population qui ne disparaît jamais véritablement. Et au fond, sur la rétention des étrangers, on a des logiques relativement proches qui se reproduisent sur cette population des pas régularisés, mais pas non plus renvoyés.
Ouais, 1006 Tunis, la France et l'Italie, Brown, ou la Delta, ou la Bruxelles, El Harboua, et MDMC, un clandestino, Dessous, MED, clandestino, Mr. Brown, aka l'original, Deep Brown, ou la Triplet, Deep Brown, ou la Triplet, Glando, Triplet, les Twitter, on n'a pas trouvé la chance, y'a ça, mais y'a à chaque fois tout le monde, Glando, on a pas taille, fataille, on va y être.
ساقر يملك تم في قلبي هكا نادم يشوف فلاش الماضي كي الأحلام اليوم حرت على سكاتي مصبرت يومي والله حرت في بلاد الناس تيقر خايف لا نرجع لبلادي جيبي فارغ بلاسي خايف لنقابل اصحابي وضحكة في فمي بريسي خايف لنرجع اكسبولسي خليني بوندي خليني نبات عاللوطة وحدي في بلاد الناس عايش ننسي كونتاني عايز ستريسي ما تقول لحد عيش دي قوتي بين عباد قدام الماني ما تعرف حد بين القطعي واللي ماشي تحت حيط واللي شا تحت تراو تمد بربي فيزي الدنيا ولات شت مدي احمد جبال تتهد نتذكر كل دمعة كل شمعة اليوم تفات فديت يا عيني ما درك سنين تعدات هزت عقل ومشات وفات عليه الفوت وعمره فات
Vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4. On rappelle que demain il y a un rassemblement devant le tribunal à 14h en soutien, en solidarité aux gens qui sont accusés d'avoir mis l'incendie au centre de rétention il y a déjà 2 ans.
Donc pour revenir à un truc que disait Nicolas Fischer dans l'interview qu'on vient, enfin l'extrait du débat qu'on vient d'écouter. Donc lui il parlait à un moment des objectifs, de l'apparition des objectifs chiffrés. Et du coup, depuis cette inscription donc dans la loi de finances du nombre des expulsions à effectuer chaque année, on assiste à une augmentation du nombre d'étrangers arrêtés et enfermés dans les centres de rétention. Donc à titre d'exemple, en 2010, il y a eu environ 50 000 personnes qui sont passées dans des centres de rétention en France métropolitaine. Et donc, augmentation du nombre d'étrangers, donc augmentation du nombre de contrôles, d'interpellations, de rafles, ainsi que une généralisation du recours à des pièges pour pouvoir atteindre ces objectifs, c'est-à-dire pour pouvoir arrêter des clandestins. Donc les exemples de ces pièges ne manquent pas. Hein. Les associations de soutien et de défense des étrangers mentionnent notamment de fausses convocations administratives, des arrestations d'enfants à l'école pour contraindre les parents, des interventions illégales dans des centres de demandeurs d'asile pour interpeller des réfugiés déboutés, des descentes dans les foyers, etc. À cela s'ajoutent également des dénonciations par des personnels de santé, des personnels sociaux ou éducatifs, des salariés de sociétés commerciales, bancaires ou de transport, etc. Donc, en plus de ces rafles dans les quartiers où sont regroupés les étrangers, et afin de pouvoir pratiquer des arrestations groupées, les flics font également murer des squads, détruire des zones d'habitat auto-construits, incendier des caravanes utilisées par des Roms ou des ouvriers clandestins, brûler des taillis abritant des migrants sur des plages. Et pour justifier ces actions qui se soldent le plus souvent par l'expulsion des personnes délogées, l'État utilise des arguments très proche de ceux qu'il utilise pour justifier la rénovation urbaine. Donc on parle de l'illégalité des camps, de l'insalubrité, de l'insécurité, de l'indignité, du risque d'incendie, du risque de sinistre, de l'ordre public, etc. Une fois arrêtés à l'intérieur des centres de rétention, les violences verbales et racistes, les coups, les mauvais traitements sont fréquents. Donc les forces de l'ordre peuvent y utiliser, par exemple, des pistolets à impulsion, donc des tasers, ou des grenades lacrymogènes. Le quotidien dans les centres est également marqué par la surveillance permanente, les insultes, les vexations, les alarmes actionnées en pleine nuit, la lumière constante, les intrusions dans les chambres pour des comptages répétés, les maladies non soignées, les contentions et les mises à l'isolement. On y applique également des tactiques visant à désorienter les retenus en alternant des situations d'attente, de décisions policières ou de décisions de justice, et des périodes de soumission à des procédures humiliantes de gestion interne au centre. Par ailleurs, les droits des retenus sont rarement respectés à l'intérieur de ces centres. Donc on peut citer par exemple le non-enregistrement régulier des plaintes, l'expulsion des personnes malades ou des personnes protégées, ou encore les fréquentes fouilles brutales, mises à nu et destruction d'objets personnels. Donc, tout comme les arrestations, les escortes et les embarquements pour l'expulsion, dont certaines phases se déroulent à mi-clos sans avocat ou sans personne pour témoigner, sont propices aux violences. Et on voit régulièrement arriver dans les aéroports ou les gares maritimes des personnes entravées, les membres scotchés, escortés par des flics qui, si la personne refuse d'embarquer, peuvent également user de violence, étranglement, écrasement, etc. pour contraindre la personne. La surenchère de lois et de propos criminalisant ou stigmatisant les sans-papiers comme responsables de l'insécurité, du trou de la sécu ou du chômage implique du coup un durcissement de l'ensemble du dispositif de contrôle et d'enfermement des clandestins. Et pour accomplir cette tâche, ben, les flics, les gendarmes et les différentes catégories de personnel qui interviennent dans l'industrie de la rétention doivent absolument intérioriser l'absence de valeur de ces retenus à qui on n'a rien à reprocher. Ainsi, les violences habituellement exercées par les flics à l'encontre de tout un chacun sont, dans le cas des sans-papiers, favorisées, encouragées par tout un ensemble de lois et de discours dénigrants ou accusant les étrangers de tous les maux. Et d'autre part, on voit mal auprès de qui l'étranger, une fois expulsé, va se plaindre des conditions de son expulsion. Pour terminer, à noter quand même que les décès assez réguliers de retenus ne provoquent pas de remise en cause de cette institution. Le fait qu'ils suscitent des révoltes comme à Vincennes en 2008, révolte qui avait eu lieu suite au décès d'un détenu, le fait qu'ils suscitent des révoltes, tout en participant à la médiatisation des conditions de vie des retenus, entérine simultanément le traitement des étrangers illégaux comme des criminels, accrédite la légitimité de la politique répressive à leur encontre et banalise le processus rafle, rétention, expulsion.
Et alors, pour illustrer un peu ce propos, je voulais vous lire deux petits témoignages. Le premier, il a été transmis depuis le centre de rétention de Nîmes, donc après le transfert des retenus à Nîmes, le 14 mars 2011, donc c'était 5 jours après l'incendie. Alors, lundi 14 mars 2011, au nom de tous les retenus du centre de rétention de Marseille, Madame, Monsieur. Voilà, le mercredi 9 mars, vers les coups de 16h, un incendie s'est déclenché au centre de rétention de Marseille. On s'est trouvé prisonnier par le feu, et beaucoup plus par la fumée très toxique. Les flics ont ouvert la porte d'entrée, et ont pris rapidement 2 ou 3 détenus. Les pompiers sont venus 20 minutes après. On a été conduit par les flics et les pompiers dans une salle pour les soins. Malheureusement, on a été soigné rapidement, légèrement, ce qui est normal aux yeux de l'État français parce qu'on est sans papier. Aucun droit. On a passé toute une soirée dans une cour, à l'air, jusqu'à 23 heures, et puis on a été conduit dans une petite salle de 12 mètres carrés. On était 36 personnes. Entre 23h30 et minuit, ils nous ont conduits au centre de rétention de Nîmes. Pire que des animaux, on est resté dans une salle jusqu'au petit matin. Beaucoup d'entre nous étaient malades. Ils avaient des brûlures aux poumons et à la gorge. Il y en a qui sont encore malades. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas reçu nos affaires. Il nous manque plein de choses. Les lunettes de soleil et l'argent qui restait dans nos poches. Voilà, donc ça c'était sur les conditions de l'évacuation après l'incendie et sur le transfert au centre de rétention de Nîmes. Et alors cette fois, c'est la retranscription de la parole d'un ancien retenu. Ça se passe pendant l'été 2012. Donc c'est déconnecté de l'incendie, mais c'est plus pour illustrer les conditions de rétention. Premièrement, il n'y a pas de docteur. Il y a des infirmières, je sais pas, des aides-soignantes. Une fois, je jouais au ballon, je suis tombée sur le genou. J'ai demandé à voir le docteur. J'ai vu une infirmière qui m'a donné des cachets pour dormir. Je sais pas, moi, ils pensent que tous les gens sont fous. Ils donnent des cachets à tout le monde. Des cachets pour dormir. La vérité, chacun est seul. Il y en a qui ont peur, d'autres qui vont bientôt sortir. Quand j'étais là-bas, il y a 2 collègues qui se sont fait expulser. On a quand même essayé de faire quelque chose dedans. On a essayé de les aider, d'empêcher les flics de les ramener. Il y a un mec que j'ai connu, il a été expulsé. Il a été scotché comme une momie. Il a été envoyé en Algérie. Il avait refusé le premier embarquement. Au deuxième, il a été expulsé. Les flics, ils nous disent rien. Chaque bloc est séparé des autres, on peut pas se parler. Juste se voir derrière la fenêtre. Des fois, tu te disputes avec les flics, ils te frappent dans les chambres. Il faut faire quelque chose. Comme ça, ils ne prennent pas confiance. On est toujours là. On est toujours là contre eux. C'est mon dernier mot.
Alors, face à ces conditions de rétention, à l'intérieur, les retenus se révoltent. Ils se révoltent de manière collective ou individuelle, à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, à l'intérieur, on a énormément de nombreuses et de fréquentes grèves de la faim. faut rappeler qu'au centre de rétention de Vincennes en 2008, avant l'incendie du mois de juin, un retenu disait que les gens et les flics s'en foutent de la grève de la faim et qu'il fallait faire autre chose pour mettre la pression. Autre acte de révolte, refus de plateau et de promenade, comme ça s'est passé l'an dernier au centre de rétention du Canet. Il y a aussi le refus de comptage. Il faut savoir qu'au centre de rétention, on compte nommément les retenus. Il y a aussi le refus de prise d'empreinte. Récemment, des migrants érythréens ont refusé de descendre du bus sans prise d'empreinte. Ils voulaient seulement qu'on leur prenne les photos. Il faut savoir que en Europe, la demande d'asile se fait par le premier pays où l'on passe. Autre refus, c'est le refus d'embarquer. En France, le premier refus peut se passer plutôt tranquillement. Mais par la suite, on peut être drogué et bâillonné. Le refus d'embarquement peut se faire aussi avec l'aide de personnes et de collectifs à l'extérieur du centre de rétention. Il y a parfois des automutilations comme acte de refus d'embarquement. Voilà, parfois des suicides. Il y a aussi des manifestations à l'intérieur du centre. À l'exemple, au centre de rétention de Vincennes en 2008, suite à la mort d'un retenu, il y a eu une marche à l'intérieur du centre, une marche silencieuse. Il y a aussi des actes d'émeute, de destruction de matériel fréquents, télévision, vide, gris, caméra de vidéosurveillance. Il y a aussi des évasions. Alors, en août dernier, ça s'est passé en Italie, suite à une émeute à Gradisca, il y a une tentative d'évasion collective qui a malheureusement échoué. Alors, il faut rappeler aussi que l'été dernier, au centre de rétention du Canet, deux retenus se sont fait la belle. Voilà. Et autre chose, ce qui arrive très régulièrement aussi, ce sont les incendies. En France, à Vincennes en 2008, il y a eu un incendie. À Bordeaux, puis Lyon, et à Marseille, il y a eu deux incendies. Une première en 2011, du coup, celle où passent les deux inculpés demain. En procès, et celle de 2012. Alors, en 2012, c'est en septembre 2012, au 1er septembre, suite à un incendie, un retenu est embarqué en garde vue. Il est jugé en comparution immédiate le mardi 4 septembre, dans l'après-midi. Il prend 8 mois ferme et 1 600 € d'amende. Lors du verdict, le juge précise que le retenu effectuera la totalité de sa peine avant de se faire expulser. Un autre retenu avait été mis à l'isolement dans le centre au moment des faits. Il est libéré le lendemain. Il porte des traces de coups sur tout le corps, sauf le visage. On rappelle aussi qu'en Italie, il y a une grosse tension et révolte, que le contexte italien est très, très, très différent du contexte français, puisque la durée de rétention est beaucoup plus longue. On rappelle que la moitié des centres de rétention sont inutilisables et que on voit régulièrement des révoltes un peu partout dans le monde.
Alors maintenant, on va parler aussi à l'extérieur. Donc il y a les passages de frontières en force, comme souvent ça se fait à Melilla. Donc qui est l'enclave espagnole qui est située au Maroc. Et par exemple, il y a à peine 3 jours, il y a 150 à 200 personnes qui ont essayé de passer. Il y a une personne qui est morte suite à ses blessures après avoir chuté de 6 mètres de haut en escaladant un des grillages. Et une centaine de personnes qui ont réussi à rentrer. Suite à ça, les autorités espagnoles veulent renforcer toujours plus la frontière. On peut aussi parler des grèves de travailleurs sans papier, des grèves de la faim, des occupations de bâtiments ou places publiques, notamment 6 000 travailleurs sans papier en grève à Paris en 2009, qui avaient occupé la Bourse du Travail jusqu'à que le service d'ordre de la CGT les en expulse. On peut aussi parler, là, au début du mois, des éboueurs de la Sépure à Alfortville qui ont entamé une grève qui a eu un succès relatif, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu des autorisations de travail et des cartes de séjour temporaires. Après, on peut aussi rajouter, les actes de solidarité de la part de personnes à l'extérieur, en solidarité aux sans-papiers. Donc, il y a les parloirs sauvages devant les centres de rétention, il y a les feux d'artifice. Il y a aussi, notamment, en Italie, pas mal de balles de tennis renvoyées à l'intérieur du centre de rétention avec des mots de solidarité dedans. Il y a aussi, comme le disait tout à l'heure l'ami, des tentatives de blocage de bateaux pour éviter qu'il y ait des expulsions et des blocus aux aéroports. J'aimerais aussi parler aussi des divers sabotages qui sont souvent revendiqués contre la machine à expulser, visant notamment les entreprises qui financent la construction des centres de rétention et des prisons, et les mêmes entreprises qui exploitent des sans-papiers, ou voire même des prisonniers. Je pense notamment à Sodexo en prison. On va dire Bouygues, on va dire Eiffage, on va dire Vinci, on va dire Sodexo, ou Honnête, c'est une entreprise de nettoyage. On va penser notamment à divers mouvements de femmes sans pape, donc travailleuses dans ce genre d'entreprise de ménage comme Accor. Et aussi, en termes de solidarité, on peut parler aussi de la radio. Comme là, ce soir... Donc, on va rappeler que demain, il y a le rassemblement devant le tribunal et que... C'est important d'y être nombreux et nombreuses. C'est à 14h au TJ, à la rue Polac. Et voilà. Et on va enchaîner avec une musique. Vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4 ND Chaîne.
وما سماوها الدنيا إلا ما هي واطية يلا يا دلاجي كاش مبقى يا دلاجي سيد القنص العكسني مولا الفكابه يحركني ادعي ليه لامي ما طلب الله سلتني ادعي ليه لامي ما طلب الله سلتني
Toujours sur une des chaînes 88.4 Radio Galère. Et on finit rapidement, hein, parce qu'on est un peu en retard, cette émission en soutien aux deux inculpés de l'incendie du centre de rétention du Canet qui passe en procès demain à 14h. Donc on vous a rappelé ça dans le petit exposé rappel des faits du début. Donc à l'issue de l'incendie, on a pris un peu au pif 6 personnes, enfin d'abord 15, puis 6, puis 2, et on les a présentées comme les coupables de, enfin les présumés coupables, pardon, de cet incendie. Et donc on voulait juste revenir sur cette image du bouc émissaire ou du pour l'exemple, et de rappeler donc par exemple lors des mouvements sociaux, on choisit souvent de condamner des jeunes là encore issus de l'immigration, c'est-à-dire issus de la colonisation, quand il y a des incendies de poubelles, etc. Et que souvent ils sont condamnés à des peines beaucoup plus lourdes que pour un incendie de poubelle, parce que ils sont donc pour l'exemple. Donc on les arrête, on les fait passer en général en comparution immédiate, hein, toujours dans la même logique que moi, on en connaît sur ses droits, mieux c'est pour la justice. Et on les condamne très lourdement, donc pour des délits mineurs, pour dissuader les autres. Et du coup, dans le cas du centre de rétention du Cannet, c'est un peu la même chose. On se rappelle aussi que l'incendie du centre de rétention de Vincennes, en tout cas, ce qui avait été dit, c'est que les noms des présumés coupables avaient été un peu choisis au hasard sur les listes de présence dans le centre. Donc cette désignation de bouc émissaire, de personnes pour l'exemple, de peine exemplaire, a pour une fonction que les gouvernants qualifient de pédagogique, c'est-à-dire montrer, faire peser, ressentir, faire exister une menace constante, permanente, celle de la répression et de l'enfermement. Donc pour les étrangers indésirables, c'est-à-dire pour les étrangers qu'on ne régularisera pas, c'est le centre de rétention, pour la population générale, la prison. Pour d'autres, qualifiés de déviants ou de fous, les asiles. Et quand on est étranger sans papier, c'est la double peine, avec renvoi dans le pays d'origine une fois la peine de prison effectuée. Donc cette menace qui pèse donc sur tous, garantit à l'État et aux patrons, qu'ils emploient ou non des clandestins, la docilité des travailleurs et des citoyens en général. Donc la répression subie par les étrangers irrégularisés, celle subie par les vendeurs à la sauvette, les travailleurs au noir, les RSAST, et tous ceux qui se débrouillent pour survivre et qu'on criminalise, participent de manière égale au maintien de l'ordre social existant, celui de la domination de la classe dirigeante, de l'exploitation et de l'oppression des classes dominées.
Voilà, et donc c'est parce que on sait que cette répression, elle est accrue, parce qu'on sait que c'est souvent que les personnes sans papier se retrouvent très isolées face à la justice, que la justice de toute façon a ce mécanisme d'isoler un potentiel coupable. Du coup, c'est pour ça que ça nous paraît important de faire circuler l'info sur cet événement-là, sur le rassemblement de demain. Et c'est pour ça également que juste après l'incendie, il y avait un collectif de soutien qui s'était monté à l'extérieur. Qui avait deux objectifs. Le premier, c'était sur un plan juridique, d'essayer d'éviter que la répression ait des conséquences trop lourdes, donc de suivre un peu, alors pour les retenus qui étaient transférés à Nîmes, des gens qui sont allés assister au passage devant le juge des libertés et de la détention, où il y a eu quelques libérations quand même, parce que les conditions du transfert n'avaient pas été terrible, mais pas tant que ça, finalement, de libération. Donc il y avait ça, et puis il y avait après suivre un peu les conséquences plus lourdes qui risquaient d'y avoir pour les autres, et donc notamment pour les personnes qui étaient en détention provisoire, donc avec des envois de courrier, et puis des visites au parloir, et puis essayer de se débarrasser de ces avocats commis d'office catastrophiques pour tenter que la défense soit un peu la meilleure possible. Voilà, donc ça c'était un peu le plan juridique de ce que faisait ce collectif. Et puis l'autre plan, c'était le plan politique, du coup essayer de que ça parle autour de ce qui s'était passé au centre de rétention, que ça soit pas juste un truc qui est jugé dans le plus grand silence. Du coup, alors avec tout un tas de volets à ça, quoi, de l'affichage dans la rue, aux interventions radiophoniques, aux concerts de soutien, avec des rassemblements aussi et manifestations devant le centre ou en direction du centre, et avec ces derniers temps des discussions publiques, projections, etc. Voilà, et l'idée de ce collectif étant assez claire de dire que c'est d'abord la révolte collective à l'intérieur qui est soutenue en tant que telle, et ensuite les personnes qui vont se retrouver à subir cette, cette répression qui est liée à ce qui s'est passé. Voilà, mais du coup, les deux ensemble, quoi. Ben voilà, donc du coup, il y a eu plein de contacts qui ont été pris, là, l'info a circulé et on espère que vous, vous serez là demain à 14h devant le TGI au 6 rue Émile Pollack. Et donc on ne vous dit pas à la semaine prochaine, on vous dit à demain. Voilà.
Et on rappelle aussi qu'il y a l'émission Parloir Libre tous les samedis de 19h à 21h. Donc une émission où les personnes, soit les amis, soit la famille, ou soit les gens proches, des gens qui sont enfermés peuvent faire des dédicaces en direct. Le numéro de la radio c'est 04 91 08 28 10. MDChain revient la semaine prochaine de 20h à 21h tous les lundis. Et on souhaite être nombreux demain devant le centre, pas devant le centre de rétention, devant le tribunal rue Émile Pollack. On souhaite pourquoi pas la relaxe aux inculpés et puis contre l'enfermement toujours et toujours et encore.
C'est ça, une haine des chaînes qui se retrouvent enfermées dans les prisons, dans les centres de rétention, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. Et voilà, visiter les centres de rétention de France, d'Italie, s'est retrouvé expulsé en Tunisie et se retrouve actuellement sous écrou là-bas, en prison. Voilà, il en a marre de ces frontières qui nous empêchent de, d'être bah, juste entre amis, d'être bien et de, bah, d'essayer de s'en sortir dans ce monde. Et voilà, solidarité avec tous les prisonniers. Feu à toutes les prisons, à tous les centres de rétention, à demain 14h.
Solidarité aussi avec les prisonnières. MDChain.